Alors là, maintenant, je passe finalement au sol, parce que quand même, quand tout à l'heure, on a demandé si la Terre était isolante, pourquoi pas, mais parce qu'il y en a certains qui veulent rien faire sur leur terre-plein, parce qu'ils veulent profiter de la chaleur du sol. Sauf qu'en Limousin, j'y crois pas trop, on a quand même beaucoup d'humidité. Enfin, moi, je me suis jamais retrouvée en face de projets où on avait une terre impeccablement sèche, etc. Moi, je préfère quand même toujours faire ce qu'on appelle un hérisson. Donc, c'est assez exceptionnel parce qu'on était dans du rocher à contre-terrier, enfin tout le drainage extérieur ne suffisant pas, il a fallu drainer aussi à l'intérieur, d'où ces tuyaux là, qui sont dans le hérisson en fait. Il va y avoir une couche, après ils seront noyés, hein. La couche n'est pas finie de hérisson. Alors, comme c'est très humide, là c'est carrément du galet. Mais on n'est pas obligé, on peut avoir de la pierre de granit cassée, enfin des petites pierres de granit, ou bien du tout venant qu'on utilise les cailloux bleus, là, enfin dans nos carrières, là, quoi. Il y en a qui utilisent même des pierres calcaires pour être bien sûr de ne pas avoir l'humidité. Là, il y a carrément 40 cm, alors, mais c'était la hauteur le permettait, hein, des seuils, du plafond, etc. Mais c'était vraiment obligatoire parce que là, on avait carrément. C'était une mare, quoi. Dès qu'il pleuvait.
Il n'y a que des galets.
Oui, là, il n'y a que du galet, oui. Alors, il y en a qui font des hérissons aussi pour gagner en hauteur quand ils n'en ont pas beaucoup. J'ai des collègues qui l'ont fait, ça marche très bien, d'utiliser la pouzzolane. Vous savez, c'est cette roche volcanique qu'on trouve chez nos voisins, Auvergnat, là. Alors, on ne l'utilise pas seul, on fait d'abord un lit de cailloux assez grossier, et après, on termine avec la pouzzolane, et ça permet d'isoler du même coup. Donc, on gagne, on n'est pas obligé de rajouter encore un isolant. Voilà. Là, sur un autre hérisson qui était simplement de pierre, on a fait une dalle chaux-paille avec le reste de la paille du chaume, en fait. Au lieu de la faire évacuer, on l'a coupée pour pouvoir la mettre dans la bétonnière. Et ça fait un isolant pas cher intégré qui isole et qui arme en même temps la dalle, donc qu'avec de la chaux. Ça aurait pu être avec du chanvre, ça aurait été un béton de chanvre, mais ça aurait coûté un peu plus cher.
Question bête, est-ce que au lieu de prendre du chanvre, on peut prendre du foin?
Alors non, le foin, ça, à mon sens, c'est un peu risqué parce que ça pourrait pourrir la fibre.
Même bien sec.
Oui, même bien sec. La paille est quand même un meilleur comportement par rapport à l'eau, à l'humidité, à toutes ces choses-là.
Pour la paille, est-ce qu'on peut prendre une paille qui est très longtemps dans une grange pour une paille avec un...
Bah, si elle n'est pas décomposée, non, la paille, ça met des années avant de composter. Enfin, si c'est à l'intérieur, surtout, en plus, ça pourrit pratiquement.
Il y a un signe pour voir si on peut l'utiliser ou pas.
Oh ben, si elle est encore bien ronde et bien qu'elle se comporte bien encore. Ah oui, bien sûr. Mais alors par contre, si vous voulez pouvoir l'utiliser dans votre bétonnière, il faut la recouper. Parce que alors sinon c'est l'enfer. Il faut fouler au pied, quoi. C'est comme à l'ancienne.
On peut faire une dalle à la place dalle béton traditionnelle, on fait paille, terre, chaud et.
Pas terre, mais à la chaux. Un peu de sable, très peu, parce que c'est pas porteur, hein, là. On n'a pas de cloison là-dessus, hein. C'est simplement là normalement on devait faire là vous pourriez refaire une chape légère pour mettre des terres cuites par exemple, ou noyer des lambourdes pour faire un parquet, enfin il y a moult, ou faire un béton ciré, alors ça c'est très à la mode aussi,
et béton de chaux.
Une finition brute avec oui à la chaux, oui cirée avec une couleur intégrée dedans, enfin voilà, on peut faire des choses assez jolies, oui.
Et
on va prendre les questions après, sinon on va se disperser.
Oui, c'est vrai que je suis lente en plus. Alors, le chanvre, là, vous l'avez un peu plus vu en plus gros comme ça. Je l'utilise énormément sur les murs, justement. Voilà. Alors, là, on voit un maçon en train d'installer la deuxième couche, parce qu'on commence par faire une première couche qu'on appelle le gobti, donc avec juste de la chaux, du sable et de l'eau. Pas de chanvre dans la première couche pour bien boucher. Aussi, ça va rentrer dans les trous qu'il y a un peu partout. Ça va reconsolider un peu tout ça. Parce que donc c'est des maisons souvent montées à la terre, hein, la plupart. Et on a aussi des fois, on a des surprises parce qu'on voit la terre où elle est partie. On voit les anciennes caches, des rats et des souris. On voit des réserves de graines, des noisettes, des coquilles de noix et tout ça. Enfin, voilà. Donc des fois, il y a des galeries pas possibles entre les deux parements du mur. Et c'est bon d'y mettre un peu de chaud, quoi. Ça consolide tout ça. Ah non, alors à la truelle, avec le cou, vous savez. Et ça, c'est. Il faut avoir le cou, voilà. Là, moi, j'utilise, surtout que c'est à l'étage, et de toute façon, j'utilise de la chaux hydraulique quand même, parce qu'on n'a pas des murs. Tout à fait. Si c'était que de l'aérien, ça ferait jamais sa prise, quoi. Donc de la chaux hydraulique et de la NHF2, la plus faible hydraulicité, ça suffit amplement pour faire des enduits. Pour la dalle, quand c'est dans un existant humide en rez-de-chaussée, j'utilise de la NHF5 ou de la 3.5. Ça dépend de l'humidité ambiante et
j'ai la Z. NHL5Z.
Ah, surtout pas, alors voilà, faut pas de Z. Parce que dès que vous voyez un Z qui se balade sur un sac, c'est qu'il y a du ciment. Voilà. Alors, on en profite pour intégrer toutes les gaines électriques aussi, les passages. Une fois qu'on aura la seconde couche, donc là c'est une couche de chaux-chanvre, vous voyez les prises électriques, elles sont affleurantes, quoi, il n'y aura pas de souci. Oui, mais on passe très vite. Non. Alors donc là, vous voyez, on peut en mettre partout aussi quand on projette sur les fenêtres et tout ça. Alors, méfiance si c'est des fenêtres neuves. Alors le parti pris là, ça a été. Donc vous voyez les différentes. C'est parce que là, il y a eu des reprises sur les embrasures. Donc vous voyez les différentes couleurs. C'est à cause de là c'est une couche qui a été posée récemment, donc elle est plus foncée que les autres. Le parti pris là, ça a été d'isoler, y compris dans le retour des embrasures. Et quand vous disiez mais on peut pas alors avec 6 cm, hein, et ben ça dépend. Moi je mets pas 6 cm en fait. Mes enduits ils finissent par faire au pire 5 cm, mais tout compris, mais des fois c'est que 3 cm. Donc vous voyez, on est bien sur, je ne répéterai pas toutes les raisons, mais on est bien sur un compromis pour casser cette effusivité froide du mur, mais tout en gardant l'inertie du mur. Donc ça fait vraiment. Alors là, on n'a pas souhaité garder les pierres apparentes sur les embrasures parce qu'elles n'étaient pas significatives. On n'avait pas des énormes pierres de taille, etc. Donc là, on voit une fois un peu plus sec. Bon, là, c'est des détails, on peut passer vite. Hein. Là, on voit un peu de laine de. Là, c'est de la laine de lin, bizarrement. Je ne sais pas, parce que j'avais plus que ça, je crois. Et ça fait le contour de la fenêtre, on l'utilise. Alors après, sur cette couche de chanvre, on refait un enduit. Là, pas la couche où vous voyez le monsieur faire son badigeon, là c'est la finition. Mais en dessous, il y a un enduit sable chaud. Et d'ailleurs, le sable, c'est pas du sable du commerce, c'est du tuf, carrément. Le tuf local qui est un peu argileux, d'où la couleur. Surtout quand il est mouillé, on se dit, oh là là, ça va rester flashy comme ça, beau rouge et tout. Et oh, déception, ouais, en séchant, ça devient très clair. Mais c'est peut-être plus vivable à long terme et ça éclaire quand même mieux la pièce quand ça, ouais, quand ça éclaire. Ouais, voilà. Faire une couche de protection, c'est quand même bien, surtout si vous devez louer vos locaux, parce qu'un isolant, c'est pas fait pour être brut, parce qu'il est fragile par essence, vu qu'il est plein d'air. Donc vous ouvrez une fenêtre, la marque de la poignée va tout de suite marquer dans votre embrasure si vous ne faites pas d'enduit de protection. L'enduit de protection, il est très fin, hein, c'est du sable très fin avec de la chaux aérienne seulement, enfin voilà. Ou alors, on est pressé et on peut directement faire un badigeon de chaux aérienne avec des pigments de couleur directement sur les murs. Alors après, là, c'est complètement autre chose. J'ai parfois des extensions à faire. Et si on a on se dit qu'on va faire de l'insufflation de boîtes de cellulose, là encore, eh ben, c'est comme pour le toit, mais en mur. Vous avez toutes les gaines électriques là, qui passent dans un vide technique, en dehors du pare-vapeur. Donc, pas de risque de traverser le pare-vapeur, etc. Et toutes ces gaines, je le dis au passage, elles sont blindées. En fait, c'est des gaines maintenant qui sont vendues comme ça. Parce que vous avez des gens dits électrosensibles. Et donc, comme c'était une maison toute en bois, comme le bois a un effet capacitif, on peut avoir. Ça peut être affreux au niveau électromagnétique, avec toutes les gaines électriques qui passent dans le bois. Donc, maintenant, il existe. C'est tout à fait abordable. Avant, mettre une installation blindée, c'était hors de prix. Maintenant, depuis l'an dernier seulement, se vendent dans le commerce des gaines complètement blindées. Et moi, l'électricien qui m'a fait ça, il me l'a fait au même prix qu'une électricité tout à fait conventionnelle. Donc, voilà. Mais là encore, c'est un électricien vertueux. C'est pas quelqu'un qui profite, quoi. Pour les planchers, pour redresser un plancher aussi fatigué, plutôt que de faire un lambourdage tout bête, on peut remplir avec, là encore, le moins cher, de la ouate de cellulose. Alors là, on ne le voit pas bien. Là, c'est le paquet de ouate quand vous le sortez. Il est très comprimé. Donc si on le déverse comme ça à la main, il faut prendre beaucoup de soin pour le décompacter, parce que sinon, c'est pas génial au niveau isolation. Là aussi, il faut faire très attention. Et puis, sur un plancher, il vaut mieux poser sur vos lames du parquet, soit du vieux, soit du neuf que vous avez mis sur les vieilles solives fatiguées, un pare-poussière, parce que sinon, vous risquez d'avoir entre les interstices, si jamais le plancher bouge, puisqu'on sait que le bois bouge toujours, d'avoir de la ouate dans le temps qui descend dans la soupe au rez-de-chaussée. Donc, et puis ça fait en plus. Alors vous voyez, là c'est un frame vapeur, même chose, c'est du craft tout simplement, la part, mais du tout. Le prix pas cher du tout, parce que c'est des feuilles qu'on vend dans les imprimeries, vous savez. Ils les donnent pratiquement, c'est pas cher du tout. On va dans les grosses imprimeries. Hop, on va chercher ça et on peut l'agrafer comme ça. Même chose pour le dessus, pour éviter, pareil, qu'il y ait un risque de salissure lorsqu'on met son parquet ensuite.
Est-ce que vous avez une solution ? Je vous pose une question.
Oui, oui.
Quand vous avez un vieux plancher comme ça à l'étage, s'il vous plaît, diminuer quand on marche au-dessus.
Oui.
La transmission des bruits,
vibrations. Oui, oui. Alors sous les lambourdes qu'on va poser pour réagréer le plancher, on pose du résilient, comme de la laine de bois là encore en faible épaisseur, ou du caoutchouc.
quelque chose de mou pour amortir
Voilà, pour ce qui est des bruits vibratiles, enfin, oui, de transmission. Pour les bruits de voix, il n'y a pas de miracle. Il faudrait, normalement, ça, c'est pas suffisant. Il faudrait c'est le mixte ressort, masse, ressort. Donc, il faudrait un matériau dur et mou et encore... et de chaque côté, alors... Bon, oui.
Il faut récupérer des cartons et les mettre... Alors, on peut faire les poubelles, récupérer des cartons et faire des couches de cartons avec du carton, de la laine, du carton, de la laine. Et comme ça, on a ce phénomène de ressort.
Et la laine est assez dure. Elle peut faire...
Non, si vous voulez avoir de la piscine, et que ça soit le sandwich, votre carton.
Oui. Alors, moi, j'ai fait aussi des planchers où on utilise la méthode humide, parce que ça dépend des chantiers. Il y en a, il ne faut vraiment pas utiliser la méthode humide. C'est pas possible de remettre de la flotte dans les lieux. Des fois, on est obligé de passer vraiment en solution sèche, complètement sèche. Mais en humide, on fait aussi pas mal de chapes allégées, encore chaud chanvre, sur des planchers fatigués, même chose. Là, ça permet de faire des super réagréages. Et au niveau phonique, c'est vraiment encore mieux, effectivement. Oui. Et alors, le liège, moi, je vous dis, je trouve que c'est trop cher. Il y a quand même pas trop... il y a plein de matériaux qui sont quand même aussi efficaces pour cet usage et moins chers. Le liège, moi, je le réserve vraiment pour les choses humides, comme je vous disais. Parce que au niveau phonique, eh ben, j'en reviens, je peux vous dire. Parce que c'est un très bon phonique pour tout ce qui est bruit d'impact. Mais par contre, pour les bruits de rose, enfin les bruits aériens, zéro. Vraiment, là, dans mon comble, j'entends les moutons du voisin sans problème. Hein, et les gens qui... oui, oui, oui. Disons que la pluie, tout ça, c'est bon, j'entends bien. Mais on est bien connecté avec l'extérieur, on dirait. C'est vrai que dans le passif, l'argument des gens qui quittent, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais moi je me plais à le dire, c'est pas bien, mais il y a quand même 20% des gens qui vivent dans des maisons passives qui les quittent. Alors on peut se demander pourquoi. Bon, la première, c'est que effectivement, c'est des maisons tellement compactes et petites que si la famille s'agrandit, on a beaucoup de mal à les agrandir. Donc, on préfère déménager. La deuxième, c'est que les gens justement se retrouvent trop dans un univers irréel, comme s'ils étaient dans un vaisseau spatial, et ils sont malheureux de plus rien entendre. Les petits oiseaux, tout ça, ils n'entendent plus, donc ça les frustre. Oui, voilà. Et la troisième, c'est parce que c'est dans les pays nordiques et qui sont une culture du feu, et ça leur manque de pas pouvoir avoir un poêle dans leur salon, parce que sinon il ferait trop chaud. Donc et le cerveau limbique marche là, et vraiment ça leur fait, c'est vraiment insupportable de même pas pouvoir avoir une flamme. Et puis surtout, c'est qu'ils ont apparemment plus de maladies quand ils sortent de chez eux, parce que vu que c'est tellement aseptisé l'air chez eux, du coup ils attrapent la moindre cochonnerie quand ils sont c'est plus malades, quoi, voilà. Alors ça, moi, c'est anecdotique, là aussi c'est pour quand tu interviendras, Tony. C'est sûr que nos maisons anciennes, hélas, on ne peut pas en faire des maisons passives, justement, qui se passeraient complètement de chauffage. Et dans je vous présente ce genre de chaudière, c'est des chaudières automatiques qui sont au bois déchiqueté ou au granule, et qui, grâce à un silo et une vis sans fin, vont chercher le granulé automatiquement, vont s'allumer automatiquement et tout faire automatiquement. Il n'y a plus la corvée de bois, et voilà. Mais pour dire qu'on installe pas mal ces machines dans des milieux ruraux, parce que justement il y a la place. Et puis il y a le bois déchiqueté, il y a la ressource, et puis on a toujours des annexes, et souvent on a besoin de mini réseaux de chaleur, parce que il y a l'ancien four qu'on a aménagé en chambre d'amis, enfin moi j'ai pas mal comme ça de clients qui ont plusieurs bâtiments à chauffer, et donc ça c'est pas mal pour chauffer plusieurs bâtiments de façon, c'est la moins chère des énergies, moins chère que le bois bûche, mais par contre c'est une chaudière qui coûte très cher, qui est très aidée pour l'instant, crédit d'impôt, etc. Mais bon, voilà. Mais si on peut s'en passer, c'est formidable. Si on arrive à bien isoler ces bâtiments pour faire qu'on a un besoin en énergie de moins de 20 kW, et bien, par mètre carré par an, et bien, il faut pas se gêner. Enfin, il ne faut surtout pas utiliser ce genre de machine. Voilà. Ces machines, c'est à réserver vraiment pour des consommations au-delà de 20 kW. Alors, je voulais illustrer aussi mon propos, pour finir, sur des maisons où je me suis rendu compte qu'on pouvait les améliorer thermiquement aussi à l'occasion d'un agrandissement, tout bêtement. C'était pas prévu au départ, mais en réalité, il se trouve que je me suis retrouvée face à deux projets où c'est arrivé. Vous allez voir, le dernier, c'était attendu parce que c'est une véranda. Mais celui-ci, c'est assez atypique. C'est une maison sur les hauteurs de Tulle, où vous avez du colombage en partie supérieure, comme vous pouvez voir, mais remplissage pierre. Il n'y a pas de torchis. Hein, c'est vraiment... Et donc, les parois ne sont pas très épaisses. Hein, j'ai le même cas dans le sud de la Corrèze, où c'est le même genre d'architecture. Et là, le client m'a demandé de faire carrément une isolation par l'extérieur, justement, parce qu'il veut, il veut absolument se rapprocher du logement passif. Et donc là, on va exceptionnellement, j'ai dit oui, pourquoi pas, parce que chez lui, on ne voit pas du tout les bois. Il y a un enduit. Et l'ABF n'est pas contre, en plus, parce que c'est dans un secteur aussi sauvegardé. Parce que la laine de bois que je vous ai fait passer, il y en a une certaine qui permet d'être enduite extérieurement, donc on ne verra rien. Le toit, de toute façon, doit être complètement refait, la charpente y compris, parce qu'elle est en ruine. Mais je n'ai pas de photo de ce projet-là parce qu'il est en cours d'étude. Mais pour vous dire que j'aurai des retours bientôt sur une maison pierre, donc. Isolé par l'extérieur, mais ce ne sont pas des murs. Là, on n'est pas sur des murs de 50, 70 ou 1 mètre d'épais. Là, c'est des murs de colombage. Si ça fait 30 cm, on est content. Quoi. Des fois, c'est 15 mètres. Donc voilà. Donc là, ça peut être justifié. Et la laine de bois est toujours mieux. De toute façon, on a des très bons retours par rapport à du polystyrène extrudé mis par l'extérieur. Quoi. Ça n'a rien à voir. Alors cette maison-là, on ne touchait pas à la maison existante, mais elle était trop petite, ils ont 4 enfants, et il fallait faire un agrandissement sur le pignon que vous voyez là. Des murs qui ne sont pas droits, comme vous pouvez voir. On va s'appuyer sur ce mur, et on va profiter de cette fenêtre, la première que vous voyez là, en partant de la gauche. On va en faire une porte en fait qui va faire l'accès entre les deux maisons, les deux espaces, l'ancien et le nouveau, et sans l'agrandir du tout, sans l'élargir. Donc elle va être très étroite, mais c'est fini aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Enfin bon, pour l'instant on n'est pas dans ces critères. Pour vous montrer aussi côté. Où on va pouvoir accéder de l'extérieur, parce qu'il y a, comme vous voyez, deux niveaux. Et en bas, il fallait pouvoir laisser le passage pour des voitures, parce que plus loin, au fond de parcelle, il y a un garage. Et donc, il fallait construire sur pilotis, en fait, vous allez voir. Donc moi, je suis partie sur du bois, en fait, carrément comme c'était du colombage, en fait, poteau-poutre. Mais qui dit moderne dit on n'a pas utilisé de bois ancien, donc ça veut dire au niveau sécheresse c'est tout relatif. Et donc pour le contreventement, alors le souci c'est que j'ai même pas de photo intermédiaire de la construction, mais vous allez me croire sur parole, entre chaque montants verticaux, on va avoir un remplissage de briques de 10 cm de l'épaisseur des montants, en fait, et qui va être ensuite enduite, vous voyez, sur l'extérieur, puisqu'ils voulaient voir leur colombage côté extérieur. Bon, là, la photo, elle est plus écrasée parce qu'elle est prise par en dessous. Enfin, le tuyau par l'extérieur, c'est un peu malheureux, mais c'est parce que c'est eux qui ont souhaité. Moi, je l'avais fait sortir en toiture. Il y a un poêle à granulés là-dedans. Ils ont préféré avoir le tuyau, le conduit de fumée extérieur. Mais en réalité, ça passe très bien. Là, sur la photo, on voit que ça, mais en réalité, on l'oublie. Le dessous est isolé avec, pareil, laine de bois, ouate de cellulose, un très bon parquet en châtaignier. Et ils ont passé... Alors, j'ai pas fini, oui. En mur, il y a donc de la brique. Derrière, on a banché 15 cm d'un béton de chaux chanvre. Et on l'a banché avec des banches perdues, qui sont un coffrage perdu, qui sont encore un rang de briques de 5 cette fois-ci, des briques plâtrières, montées à l'intérieur et enduites aussi à la chaux. Eh bien, ils ont passé tout un hiver là, ils n'en reviennent pas parce que jusque-là, ils se chauffaient avec des convecteurs électriques dans leur maison existante. Eh bien, sans pour autant avoir pourtant fait une action sur la maison existante, il faut dire que le toit de cette maison, là où on voit côté jardin, c'est du bardeau de bois isolé, pareil, avec une épaisseur. Là, il y a carrément 30 cm de ouate de cellulose. Donc la charpente fait caisson. Et d'ailleurs, du coup, ça leur a donné envie de restaurer le bâti existant, de refaire les enduits, finalement. Pour faire plus joli, pour faire une harmonie avec l'extension. Donc je commençais à dire, finalement maintenant c'est ce poêle qui est pourtant tout au fond de cette nouvelle longère, on va dire, qui suffit à chauffer l'ensemble de la maison. Alors que le poêle normalement avait été mis juste pour cette pièce nouvellement créée, et puis c'est tout. Et finalement, ça a la vertu de pouvoir chauffer tout le bâtiment. Et ils ont eu une consommation en granulés ridicule, en dessous de ce que leur avait dit le vendeur du poêle. Et ils sont fort contents, voilà. Mais ça, c'était pas fait exprès. Alors on a de la chance.
Comment est-on orienté l'ouverture ?
Alors le pire, bonne question. Le pire, c'est qu'elle est plein nord. Alors tout le contraire du bioclimatique. Puisque malheureusement au sud, je ne vous montre même pas de vue au sud, parce qu'on avait la vue sur un hangar fermé, il n'y avait pas le soleil de toute façon, et puis avec un énorme transformateur électrique. Alors moi je leur avais dit, mais construire, et surtout que c'était côté de la chambre de la gamine, il y avait un salon et une chambre. Et j'ai dit, mais c'est horrible, vous vous rendez compte, l'électromagnétisme qu'il y a là, enfin horrible. Et il y avait en plus une ligne électrique qui passait au-dessus du faîtage avant sur la bâtisse. Là. Et en fait, ils n'auraient jamais dû donner le permis de construire parce qu'on construisait sous une ligne électrique en réalité. Mais la ville de Tulle n'a pas fait gaffe et EDF était furieux parce qu'ils ont dû faire à leurs frais le déplacement de la ligne. Et ils ont dû... heureusement, le transformateur était obsolète, donc ils l'ont enlevé, alors que sinon, ils ne l'auraient jamais enlevé. Ce gros truc monstrueux serait resté encore des années et des années. Donc finalement, ça a été une chance. Voilà. Et puis maintenant, il n'y a plus d'électromagnétisme, du coup, puisque la ligne est rejetée loin. Donc on a tout gagné. Sans le faire exprès, là aussi.
L'épaisseur chauffante entre les deux.
Alors, il y a 15 cm, oui. Et vraiment, le maçon qui l'a fait là pour la première fois, il était tout content. Il disait qu'il n'en revenait pas du climat qu'il y avait déjà, parce qu'ils ont passé aussi un été, et l'été, et cet hiver. Et pourtant, avec une grande ouverture au nord, hein, comme on disait. eh bien, il a envie de le faire partout maintenant. Alors, tout ce qui est maison neuve, maintenant, il veut faire comme ça. Je lui dis d'aller mollo quand même, parce que là ça s'y prêtait bien, mais on va pas faire du colombage. Bon, remarquez, on n'est pas obligé non plus de montrer le colombage extérieurement aussi. Il aurait pu être complètement enduit, fermé. Alors là, c'est autre chose, c'est le dernier exemple. Hein. C'est une. J'ai même pas retrouvé les photos quand on a enlevé toute cette végétation. Donc là, c'est pour vous montrer l'existant. Mais c'était envahi de végétation, donc on voit rien, c'est vachement intéressant. C'est une ancienne école style 1900, avec, là on voit le pignon. Sur ce pignon, dans cette ancienne école, on a emménagé deux appartements, un au rez-de-chaussée, un à l'étage, et pour pouvoir... faire un chauffage passif dans cette grande bâtisse, vous allez avoir contre ce pignon le projet c'était de faire une véranda habitable aux deux étages pour chaque appartement et avec un escalier indépendant pour accéder à l'appartement du dessus. Donc alors voilà la maison existante derrière. Tout est sur une cave et l'ancien logement de l'instituteur était sur cave et les classes avec ces grandes baies vitrées caractéristiques de ces écoles là et sur vide sanitaire. Alors j'ai pas de photo intérieure là, ça aurait été trop long, mais on a isolé avec des dalles chaud chanvre. On a fait tomber tous les enduits ciment qu'il y avait dans les caves, parce qu'au début, il y avait de l'enduit ciment que dans les caves, que dans la cave. Mais on s'était dit, on la garde, parce que ce n'était pas la priorité au niveau travaux, surtout budget. Et il n'y avait pas de ciment ailleurs, et la cave était sèche, donc on s'est dit, pourquoi l'enlever. Seulement, quand on a commencé à isoler avec des enduits chaud chanvre, la maison, les planchers avec dalles chaud chanvre, et ben c'est là qu'on a vu de la condensation dans la cave, horrible. Le plancher par en dessous, le plafond donc, pour la cave, suintait. Il y avait de l'eau qui coulait, on n'avait jamais vu ça. On avait créé un désordre finalement dans cette cave en isolant, en coupant finalement la ventilation qu'il y avait avant. Par le plancher, puisqu'on l'avait isolé, voilà. Donc il a fallu d'urgence faire la dépose de tous ces enduits ciment. Et oui, c'est une des maisons où je vous disais qu'on voyait l'eau suinter comme ça derrière, entre l'enduit et la pierre, ça suintait comme ça. Carrément, la vapeur d'eau s'était retransformée en eau et ça coulait comme une fontaine, quoi. Donc, et je vous dis, deux jours après, c'était tout sec. Et depuis, la cave est parfaite. Elle a retrouvé son intégrité. Elle est sèche. Tout se passe bien. Alors, voilà pour l'agrandissement. C'est tout de la... Ça paraît jaune, là, mais c'est un peu rose. Non, c'est du Douglas et du Mélèze. Là, on est passé en baie vitrée alu. Je préfère ça au PVC quand on est obligé de faire autre chose que du bois. Mais sinon, le bois est partout présent ailleurs dans la maison. Donc vous avez l'escalier qui va à l'étage. Et puis sinon, chacun a sa véranda. Et donc on voit de côté là. On a prolongé le toit. Donc tout est à la même hauteur. Des ardoises ont été récupérées pour pas faire une coupure trop nette. Si on avait utilisé de l'ardoise d'Espagne, par exemple, ça aurait juré avec le reste de la couverture, puisque là, on ne refaisait pas la couverture, hein, on l'a prolongée simplement sur l'existant. Et comme il y avait des différences de niveau, on a dû, puisque tout est surélevé à cause de la cave, on a dû faire un socle en pierre, là, ce qui a été choisi, et bientôt, il y aura une terrasse qui prolongera encore, mais plutôt légère, bois sur pilotis.
Et c'est un panneau solaire ?
Oui, alors là aussi, on ne peut pas s'empêcher. Là, il y a quelques panneaux solaires qui traînent. Et c'est... Et...
Mais c'est pour...
Pour l'eau chaude sanitaire, oui, oui. Parce que là, le chauffage, c'est un poêle de masse, en fait. Alors, j'aurais jamais, moi, osé mettre un poêle de masse, mais le client, il tenait absolument... Alors qu'il avait des radiateurs en fonte, qui sont très recherchés par tout le monde en général, lui, il a voulu s'en débarrasser. Et bon, il les a revendus, il n'y a pas de souci, ça a fait un heureux. Mais lui, il rêvait d'avoir le poêle de masse qui est central. Vous voyez la cheminée qui sort là au milieu. Et il y a un réseau d'air chaud qui va très savant, mais sans électricité naturelle, qui va chauffer les pièces les plus éloignées partout dans la maison. Chaque pièce a son chauffage, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est grâce à ce concepteur de poêle de masse qui avait cette, ce truc en plus quoi, que d'autres n'avaient pas. Lui, il maîtrisait l'aérolithique, là, je ne sais pas comment on appelle ça.
L'aérolique,
voilà. Voilà.
Donc la convection se fait naturellement.
Et la convection se fait naturellement. Et alors on a des grilles comme ça, avec des caches, des tirettes, et on ferme ou on ouvre selon la chaleur qu'on veut dans sa chambre. Et là, c'est parce qu'on a une très bonne isolation aussi, pareil, de cellulose, de bois. Excusez-moi, j'ai des marottes, mais comme ça marche bien et qu'au niveau financier, ça passe, et que j'ai des très bons applicateurs, c'est ça aussi surtout. Voilà. Et alors surtout, le gain, s'il n'y avait que ce poêle de masse, ça ne suffirait pas. On a cette véranda qui marche vraiment à fond pour une chaleur passive. L'hiver, c'était impressionnant. Il laisse le client là, il laisse ses portes ouvertes dans l'interface, puisqu'on a dû faire des percements. Vous avez vu que le pignon était aveugle normalement, et il les laisse complètement ouverts et ça chauffe gratuitement son intérieur. Et par contre, l'été, il ferme l'interface entre les deux et il ouvre largement ses baies vitrées pour pas avoir de surchauffe. Et surtout, on a une véranda qui n'est surtout pas vitrée en toiture. Elle est, comme vous constaterez, il n'y a pas... effectivement, ce sont des capteurs solaires, ce n'est pas des fenêtres de toit. C'est pas... Et voilà.
Et la nuit, comment ça se comporte?
Alors, la nuit, lui, il a des volets partout. Parce que là, on ne les voit pas sur la photo, mais depuis, il a remis les volets d'origine, en fait. Un peu repeints, etc. Sauf sur la véranda, effectivement, on est sur du double vitrage, mais sans occultation. Il n'y a pas. Alors, on pourrait se dire, oui, quel dommage, on perd tout le... C'est vrai, c'est perfectible. Mais là, pour l'instant, ça fonctionne bien, en fait. Alors, par contre, vous verrez des épis de fêtage qui ne sont pas de mon choix. Là. Enfin, moi, j'en aurais pas mis, en tout cas.
Mais c'est...
mais ces épis de fêtage, j'y tenais parce que ça accompagne... les fabriques, les côtières, et voilà.